Lizzie présente Memory de Arnaud Delalande. Lu par Clémentine Domtaille. Prologue. Aux délices du souvenir. La mémoire est la sentinelle de l'esprit. Shakespeare, Macbeth, entre 1599 et 1606.
Plus vite, nom de Dieu !
Il glissa la lourde enveloppe de papier Kraft dans la consigne automatique de la gare, referma la porte et pianota le code. Le boîtier électronique émit un bip. Regardant vivement autour de lui, Marcus enfila son casque de moto et se dirigea vers la sortie. Il n'était pas tranquille. La pression n'avait cessé de monter depuis des semaines. Il enchaînait les insomnies. Cela ne faisait aucun doute, sa vie était menacée. Mais bientôt, la vérité éclaterait au grand jour. En attendant de mettre son plan à exécution, il devait à tout prix trouver un abri sûr. Il avait hésité la nuit durant quant à la conduite à tenir jusqu'à admettre l'évidence. Il n'avait d'autre choix que de fuir au plus vite. Il n'hésiterait pas une seconde à l'éliminer. La gare était presque déserte ce matin. Coup d'œil à sa montre. 8h29. Le fuyard rabattit la visière de son casque et franchit les portes coulissantes. Elles chuintèrent. Il prendrait le premier vol en partance d'Orly pour Londres. Heureusement, il voyagerait léger, avec pour seul bagage son petit sac à dos noir. Marcus en ajusta les sangles une nouvelle fois. Au dehors, un vent froid claqua contre sa combinaison. Loin au-dessus de lui, le ciel déroulait les nuages d'une aube sans âme, rêche comme une lame de rasoir. Au fond, le liseré enneigé des montagnes. Marcus songea, non sans effroi, que peut-être, en ce moment même, une équipe se faufilait dans son appartement de la rue Grenette dans la vieille ville, près de la cathédrale Saint-Pierre, pour le mettre sans dessus-dessous. Fébrile, il chassa cette pensée. Il enfourcha sa moto et démarra au kick. Sa Honda rugit, et il fila en trombe sur l'avenue du Rhône. Direction, l'aéroport d'Annecy, Haute-Savoie, Mont-Blanc. Nouveau coup d'œil à sa montre. Il y serait en 10 minutes.
« Oh merde, c'est pas vrai !»
Son rétroviseur ne mentait pas. Il lui avait fallu qu'une poignée de secondes pour repérer la berline de couleur sombre qui venait de déboîter derrière lui. Dès le boulevard de la Rocade, il modifia son itinéraire pour s'en assurer, bifurquant vers l'avenue la plus proche à la sortie du rond-point. L'instant suivant, il plongeait sans hésiter dans l'une des rues adjacentes. Non seulement la berline le suivait, mais elle accélérait. Il zigzagua entre les voitures et décrocha en épingle dans la rue du Levant. La moto bondit. Marcus grimaça sous son casque. Une pluie fine se mettait à tomber. Elle allait compliquer encore la poursuite. Le sang battait à ses tempes. Son cœur cognait dans sa poitrine. Il haleta, oppressé. Il se maudit. Il aurait dû tourner à gauche plus tôt, vers les promenades longeant le tuyau. Son chasseur n'aurait pu le suivre dans les contre-allées. Tandis qu'ici, la berline, rugissant à son tour, gagnait du terrain. Il accéléra de plus belle, faisant lui aussi gronder le moteur. Sur l'asphalte mouillé, il manqua de glisser. Une fois. Deux fois. Dans le centre cerné des vieilles maisons d'Annecy, son équipée se faisait terriblement dangereuse. Il serra les dents lorsque l'inévitable se produisit. À 20 mètres de lui, une jeune femme coiffée en chignon traversait la rue sur un passage piéton. Elle tenait un parapluie noir et un enfant par la main.
« Non, 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 non !»
Lancé à pleine vitesse, le motard freina brutalement. Ses pneus crissèrent, fumant. Dans un hurlement mécanique, la Honda vacilla puis versa, soulevant une gerbe d'eau. Marcus eut encore le temps de voir la bouche arrondie de la passante, telle une biche pétrifiée, éblouie par les phares. Et les yeux immenses de son petit garçon qui se figeait lui aussi comme une statue de sel. Puis son bolide quitta la route. La moto dérapa en criant, dans une agonie métallique semée d'étincelles. Soudainement éjecté, son propriétaire effectua 3 roulades sur le sol avant que sa tête, toujours casquée, n'aille heurter de plein fouet un manteau de béton à l'angle du bâtiment le plus proche. La moto, elle, acheva sa course, déchaînant un nouveau tonnerre. Elle percuta la baie vitrée d'une boutique de souvenirs qui explosa en un vacarme assourdissant, projetant au hasard des bris de verre tranchants. Déjà, on se précipitait de toutes parts. Deux passants s'élançaient vers l'accidenté. On se penchait aux fenêtres. Le propriétaire de la boutique, aux délices du souvenir, effaré, se rua vers l'extérieur. Un vieil homme s'était arrêté, blême. Non loin, un adolescent eut le réflexe de dégainer son portable. Égaré sur les clous, la mère de famille se tenait toujours au milieu de la route, le cœur battant et les mains moites. Sous le choc, son petit garçon levait vers elle des yeux paniqués. La berline n'avait pilé, elle aussi, à quelques mètres de l'accident. Le conducteur en sortit et se dirigea vers le corps inanimé. Sifflant entre ses dents, il plongea la main dans sa poche pour y rencontrer la crosse d'un revolver équipé d'un silencieux. Mais déjà les badauds accouraient. On appelait une ambulance. Trop de monde. Il eut un instant d'hésitation. Puis, il regarda la scène en jurant, se mordit les lèvres et fit demi-tour. Il retourna dans son véhicule et en claqua la portière. L'un des passants était penché sur l'accidenté. « Il est vivant ! Ne bougez pas, monsieur, les secours sont en route !» À l'intérieur de la berline, le conducteur poussa un cri rageur. Puis, il laissa échapper une volée d'insultes, ses mains gantées frappant avec violence le cuir de son volant. Première partie. Encodage. Rien n'est plus capable que la mémoire de féconder et nourrir l'esprit. Plutarque, de l'éducation des enfants. Premier siècle après Jésus-Christ. Il y a en nous une mémoire latente, composée de tout ce que nous croyons avoir oublié. Henri Boucher. Les pensées, Maximes et réflexions, 1866. Chapitre 1. Cimetière des îles. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Le ciel était lourd et uniforme au-dessus du cimetière des îles le plus récent d'Annecy. Non loin du crématorium, une pleureuse de bronze se lamentait à l'orée rectiligne des stèles et des croix. La voix du prêtre, vaguement éraillée, semblait se perdre dans la brise glacée qui agitait doucement son étole et les cheveux des convives, visage mordu par les assauts du givre. Le tableau était fidèle à ce qu'il était censé être. Funéraire, froid comme la mort, teinté d'une austérité, pour ainsi dire, flamande. Parmi l'assistance, devant les couronnes et les bouquets de chrysanthèmes, se trouvaient de nombreux policiers en uniforme. Au milieu d'eux, une jeune femme, en veste, pull et pantalon noir. Blonde à la chevelure coupée court, les yeux bleus sombres, le visage pâle malgré des joues rosies par le gel, les lèvres fines, elle devait avoir un peu plus de 30 ans. Ses traits étaient harmonieux, quoique durs et tirés par le chagrin. Elle contemplait ce cercueil sombre aux reflets d'opale que l'on descendait lentement en terre. Sa silhouette était empreinte d'une sorte de grâce féline, contrariée par son allure de garçon manqué. Ravalant ses larmes, Jeanne leva le visage, cherchant à contrôler ses émotions. « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » À l'instant où Jeanne voyait son père disparaître dans ses profondeurs angoissantes, des souvenirs longtemps refoulés ressurgirent à sa mémoire. Ils explosèrent en flashs crépitants, qui la laissèrent vacillante. Pourquoi ces images-ci et pas d'autres? Elle aurait été bien en peine d'en expliquer la raison, mais c'étaient ses souvenirs soudain voilés, surexposés, issus d'un autre temps, à la façon de Polaroid vintage qui jaillissaient en cascade. Peut-être la chimie obscure de son cerveau, de ses sentiments, lui envoyait-elle un signal confus qu'elle ne parvenait pas encore à interpréter, aveuglée qu'elle était par la douleur et le souvenir? En tout cas, ils étaient là. Ils revenaient.